Chapitre 35. Profits et pertes. J'ai bien peur, dit-il en rentrant, t'avoir fait une fichue campagne. Pas, nous radraberons ça. Le malin est que messer le patron, c'est d'aviger. Répondit le bon Allemand en ne s'occupant que du décorum. Oui, ma maîtresse en dire doit être dans une position, digne-te-moi. Répondit ce Louis XIV de comptoir. Sûr d'avoir tôt ou tard Esther, le baron redevint le grand financier qu'il était. Il reprit si bien la direction de ses affaires que son caissier, en le trouvant le lendemain à 6 heures dans son cabinet, vérifiant des valeurs, se frotta les mains. Décidément, Mencier le baron avait d'une égronomie la nuit dernière. Dit-il avec un sourire d'Allemand, moitié fin, moitié niais. Si les gens riches, à la manière du baron de Nucingen, ont plus d'occasion que les autres de perdre de l'argent, ils ont aussi plus d'occasion d'en gagner, alors même qu'ils se livrent à leur folie. Quoique la politique financière de la fameuse maison de Nucingen se trouve expliquée ailleurs, il n'est pas inutile de faire observer que de si considérables fortunes ne s'acquièrent point, ne se constituent point, ne s'agrandissent point, ne se conservent point, au milieu des révolutions commerciales, politiques et industrielles de notre époque, sans qu'il y ait d'immenses pertes de capitaux ou, si vous voulez, des impositions frappées sur les fortunes particulières. On verse très peu de nouvelles valeurs dans le trésor commun du globe. Tout accaparement nouveau représente une nouvelle inégalité dans la répartition générale. Ce que l'État demande, il le rend. Mais ce qu'une maison Nucingen prend, elle le garde. Ce coup de Jarnac échappe aux lois par la raison qui eût fait de Frédéric II un Jacques Collin, un Mandrin, si, au lieu d'opérer sur les provinces à coups de bataille, il eût travaillé dans la contrebande ou sur les valeurs mobilières. Forcer les États européens à emprunter à 20 ou 10%, gagner ces 10 ou 20% avec les capitaux du public, rançonner en grand les industries en s'emparant des matières premières, tendre au fondateur d'une affaire une corde pour le soutenir hors de l'eau jusqu'à ce qu'on ait repêché son entreprise asphyxiée, enfin, toutes ces batailles d'écus gagnées constituent la haute politique de l'argent. Certes, il s'y rencontre pour le banquier, comme pour le conquérant, des risques. Mais il y a si peu de gens en position de livrer de tels combats que les moutons n'ont rien à y voir. Ces grandes choses se passent entre bergers. Aussi, comme les exécutés, le terme consacré dans l'argot de la bourse, sont coupables d'avoir voulu trop gagner, prend-on généralement très peu de part aux malheurs causés par les combinaisons des Nucingen. Qu'un spéculateur se brûle la cervelle, qu'un agent de change prenne la fuite, qu'un notaire emporte les fortunes de 100 ménages, ce qui est pique de tuer un homme, qu'un banquier liquide, toutes ces catastrophes, oubliées à Paris en quelques mois, sont bientôt couvertes par l'agitation quasi marine de cette grande cité. Les fortunes colossales des Jacques Coeur, des Médicis, des Angot de Dieppe, des Offredi de La Rochelle, des Fugger, des Tiepolo, des Corner, furent jadis loyalement conquises par des privilèges dus à l'ignorance où l'on était des provenances de toutes denrées précieuses. Mais aujourd'hui, les clartés géographiques ont si bien pénétré les masses, la concurrence a si bien limité les profits, que toute fortune rapidement faite est, ou l'effet d'un hasard et d'une découverte, ou le résultat d'un vol légal. Perverti par de scandaleux exemples, le bas commerce a répondu, surtout depuis 10 ans, à la perfidie des conceptions du haut commerce par des attentats odieux sur les matières premières. Partout où la chimie est pratiquée, on ne boit plus de vin. Aussi l'industrie vinicole succombe-t-elle. On vend du sel falsifié pour échapper au fisc. Les tribunaux sont effrayés de cette improbité générale. Enfin, le commerce français est en suspicion devant le monde entier et l'Angleterre se démoralise également. Le mal vient chez nous de la loi politique. La charte a proclamé le règne de l'argent. Le succès devient alors la raison suprême d'une époque hâtée. Aussi, la corruption des sphères élevées, malgré des résultats éblouissants d'or et leurs raisons spécieuses, est-elle infiniment plus hideuse que les corruptions ignobles et quasi personnelles des sphères inférieures, dont quelques détails servent de comique, terrible si vous voulez, à cette scène. Les ministères, que toute pensée effraie, ont banni du théâtre les éléments du comique actuel. La bourgeoisie, moins libérale que Louis XIV, tremble de voir venir son mariage de Figaro, défend de jouer le tartuffe politique, et certes, ne laisserait pas jouer Turcaré aujourd'hui, car Turcaré est devenu souverain. Dès lors, la comédie se raconte et le livre devient l'arme moins rapide mais plus sûre des poètes. Durant cette matinée, au milieu des allées et venues des audiences, des ordres donnés, des conférences de quelques minutes qui font du cabinet de Nucingen une espèce de salle des pas perdus financière, un de ses agents de change lui annonça la disparition d'un membre de la compagnie, un des plus habiles, un des plus riches, Jacques Falex, frère de Martin Falex et le successeur de Jules Desmarets. Jacques Falex était l'agent de change en titre de la maison Nucingen. Deux concerts avec Dutillet et les Keller, le baron avait aussi froidement conjuré la ruine de cet homme que s'il se fût agi de tuer un mouton pour la Pâque. « Il ne bouffait pas de nir, » répondit tranquillement le baron. Jacques Falex avait rendu d'énormes services à l'agiotage. Dans une crise, quelques mois auparavant, il avait sauvé la place en manœuvrant avec audace. Mais demander de la reconnaissance au loup Servier, n'est-ce pas vouloir attendrir en hiver les loups de l'Ukraine ?« Pauvre homme !» répondit l'agent de change. Il se doutait si peu de ce dénouement-là qu'il avait meublé, rue Saint-Georges, une petite maison pour sa maîtresse. Il y a dépensé 150 000 francs en peinture, en mobilier. Il aimait tant Madame du Val-Noble. Voilà une femme obligée de quitter tout cela. Tout y est dû. « Pon, pon !» se dit Nucingen. « Voilà bien le gars de réparer mes berdes de cette nuit. Il n'a rien baillé ?» demanda-t-il à l'agent de change. « Eh !» répondit l'agent. « Quel est le fournisseur mal appris qui n'eût pas fait crédit à Jacques Falex ? Il paraît qu'il a une cave exquise. Par parenthèse, la maison est à vendre. Il comptait l'acheter. Le bail est à son nom. Quelle sottise ! Argenterie, mobilier, vin, voitures, chevaux, tout va devenir une valeur de la masse, et qu'est-ce que les créanciers en auront ?»« Fenez demain, » dit Nucingen. « J'aurai des foires tout ce tas, et s'il on ne t'éclare point de faillite, qu'on arrange les avers à l'amiable, je vous chercherai d'offrir un prix raisonnable de ce mobilier en prenant le paille. » »« Ça pourra se faire très bien, » dit l'agent de change. « Allez-y ce matin, vous trouverez l'un des associés de Falex avec les fournisseurs qui voudraient se créer un privilège. » Mais la Val-Noble a leur facture au nom de Falex. Le baron de Nucingen envoya sur le champ un de ses commis chez son notaire. Jacques Falex lui avait parlé de cette maison qui valait tout au plus 60 000 francs et il voulut être immédiatement propriétaire afin d'en exercer le privilège à raison des loyers. Le caissier, honnête homme, vint savoir si son maître perdait quelque chose à la faillite de Falex. « Au contraire, mon bon Volcanque, je fais rattraper 100 000 évrants. »« Eh ? Gommant. »« Eh ! J'aurai la bénite maison que ce pauvre diable de Falex brébarait à sa maîtresse depuis un an. J'aurai le doute en offrant 50 000 francs au créancier et maître Gartot, mon notaire, fa à foire mes ordres pire la maison, gar le bon briétaire est gêné. Je le safais, mais je n'affaiblis la dette à moi. Ma tiffine Esder habitera un dédit balai. Valex m'y a mené, c'est un merveille à deux bas d'ici. Ça me fa comme un camp. » La faillite de Falex forçait le baron d'aller à la bourse, mais il lui fut impossible de quitter la rue Saint-Lazare sans passer par la rue Têtebout. Il souffrait déjà d'être resté quelques heures sans Esther, il aurait voulu la garder à ses côtés. Le gain qu'il comptait faire avec les dépouilles de son agent de change lui rendait la perte des 400 000 francs déjà dépensés, excessivement légère à porter. Enchanté d'annoncer à son hanche sa translation de la rue Têtebout à la rue Saint-Georges, où elle serait dans un bédibalé, où des souvenirs ne s'opposeraient plus à leur bonheur, les pavés lui semblaient doux aux pieds, il marchait en jeune homme dans un rêve de jeune homme. Au détour de la rue des Trois Frères, au milieu de son rêve et du pavé, le baron vit venir à lui Europe, la figure renversée. « Uffati, » dit-il. « Eh, monsieur, j'allais chez vous. Vous aviez bien raison hier. Je conçois maintenant que la pauvre madame devait se laisser mettre en prison pour quelques jours. Mais les femmes se connaissent-elles en finance ? Quand les créanciers de madame ont su qu'elle était revenue chez elle, tous ont fondu sur nous comme sur une proie. Hier, à 7 heures du soir, monsieur, on est venu apposer d'affreuses affiches pour vendre son mobilier samedi. Mais ceci n'est rien. Madame, qui est tout cœur, a voulu, dans le temps, d'obliger ce monstre d'homme, vous savez ?
Quel monstre ?
Eh bien, celui qu'elle aimait, ce Destourny. Oh, il était charmant. Il jouait, voilà tout.
Échoué, avec des gardes pisaudés.
Eh bien, et vous, dit Europe, que faites-vous à la bourse ? Mais laissez-moi dire, un jour, pour empêcher Georges, soi-disant, de se brûler la cervelle, elle a mis au Mont-de-Piété toute son argenterie, ses bijoux qui n'étaient pas payés. En apprenant qu'elle avait donné quelque chose à un créancier, tous sont venus lui faire une scène. On la menace de la correctionnelle. « Votre ange, sur ce banc-là, n'est-ce pas à faire dresser une perruque de dessus la tête ? Elle fond en larmes, elle parle d'aller se jeter à la rivière. Oh, elle ira !»«
Si je fais foufoi, as-tu la pierce ?» s'écria Nucingen.
Et il est imposible que je n'y aille pas, car j'y cagnerai quelque chose, Birel. Va la galmer. Je baillerai ses têtes, j'irai la foire à 4 heures. Mais, Icheny, dis-lui qu'elle m'aime un peu.
Comment un peu, mais beaucoup?
Tenez, monsieur, il n'y a que la générosité pour gagner le cœur des femmes. Certainement, vous auriez économisé peut-être 100 000 francs en la laissant aller en prison. Eh bien, vous n'auriez jamais eu son cœur. Comme elle me le disait, Eugénie, il a été bien grand, bien large. C'est une belle âme.
Elle a dit ça, Eugénie, s'écria le baron.
Oui, monsieur, à moi-même.
Tiens, voici 10 louis.
Merci. Mais elle pleure en ce moment, elle pleure depuis hier autant que Sainte-Madeleine a pleuré pendant un mois. Celle que vous aimez est au désespoir et pour des dettes qui ne sont pas les siennes encore. « Oh, les hommes, ils grugent autant les femmes que les femmes grugent les vieux. Allez !»«
Elles sont tudes comme ça, sans cacher.
Eh bien, l'on ne s'en cache jamais. Qu'elle ne signe plus rien. Je baille, mais si elle tonne encore une signature, je... »«
Que feriez-vous ?» dit Europe en se posant.
« Montier, je n'ai aucun bouffoir sur elle. » Je fais me mettre à la dette de ces petits désastres. Fa, va la gonzoler et lui tire que dans un mois, elle habitera un bédit balai. Vous avez fait, monsieur le baron, des placements à gros intérêt dans le cœur d'une femme. Tenez, je vous trouve rajeunie, moi qui ne suis que la femme de chambre, et j'ai souvent vu ce phénomène. C'est le bonheur a un certain reflet. Si vous avez quelques débours, ne les regrettez pas. Vous verrez ce que ça rapporte. D'abord, je l'ai dit à madame. Elle serait la dernière des dernières, une traînée, si elle ne vous aimait pas, car vous la retirez d'un enfer. Une fois qu'elle n'aura plus de soucis, vous la connaîtrez. Entre nous, je puis vous l'avouer, la nuit où elle pleurait tant. Que voulez-vous ? On tient à l'estime d'un homme qui va nous entretenir. Elle n'osait pas vous dire tout cela, elle voulait se sauver.
Se sauver ? S'écria le baron effrayé de cette idée.
« Mais la pierce, la pierce ! Fa, fa, chez Nandreboin. Mais qu'ai-je la foie à la fenêtre ? Ça fume tonnera du cuir. » Esther sourit à M. de Nucingen quand il passa devant la maison et il s'en alla pesamment en se disant « Ça est d'un hanche !» Voilà comment s'y était pris Europe pour obtenir ce résultat impossible.